Les rencontres de Marie-Claude.
Bonjour, je m'appelle Éric Giraudet, je suis infirmier depuis 1993. J'ai fait une formation générale à l'époque. Il y avait encore une formation psychiatrique et une formation diplôme d'État. Et pendant plusieurs années, j'ai travaillé dans les soins somatiques et surtout dans les réanimations et soins intensifs. Jusqu'en fin 99 en France et ensuite en Suisse à partir de cette date. Et j'ai cessé les soins intensifs fin 2001 par essoufflement, par recherche d'autre chose. Il y avait une sorte de frustration dans les soins intensifs qui était ce temps qui n'était pas compté pour être auprès du patient et permettre un meilleur rétablissement par un soutien psycho-éducatif ou juste un soutien standard. Et à ce moment-là, comme j'avais à la fois un fixe et je faisais de l'intérim à côté, la patronne de l'agence intérim m'a proposé d'aller voir ce qui se passait en psychiatrie. Donc c'était un monde que je connaissais pas du tout, très très peu. J'avais fait une fois un remplacement en France en intérim, une journée, un premier de l'an, et puis c'était pas du tout significatif de ce qu'est la psychiatrie. Du coup, j'ai volontiers essayé. C'était justement à Malévo ici, c'était en février 2002, où je suis venu une soirée, parce qu'il y avait un poste de nuit qui se profilait, donc je suis venu 3 heures observer de 21h30 à un peu plus de minuit, et là ça m'a accroché tout de suite. J'ai vu l'intérêt que je pouvais tirer de ce milieu, c'est-à-dire être dans l'échange avec le patient, et je dirais libérer presque totalement, parce qu'il y a quand même des soins somatiques, libérer des actes de soins somatiques qui sont extrêmement chronophages.
Alors, on va revenir à ce parcours, on va peut-être le faire d'une manière un peu chronologique. Qu'est-ce qui vous a amené à choisir la profession, le métier d'infirmier ?
Alors, ça a été au final un choix par défaut. Bon, que j'ai pas regretté par la suite, mais j'étais pas très assidu au travail personnel à l'école. J'ai vécu sur mes acquis tout le long des études que j'ai suivies, sauf plus tard, mais... Et du coup, ça a fait... Alors, j'avais de bons acquis, et puis apparemment, j'étais plutôt considéré dans l'élite, surtout en mathématiques et en physique. Mais j'ai pas travaillé personnellement pour développer ça. Ce qui fait que j'ai fait 3 premières années de faculté, 2 premières années de médecine, 1 première année de biologie. Et puis, bah, évidemment, pour réussir là, il faut travailler, apprendre, refaire les choses, etc. Donc, je voyais surtout ce moment-là pour faire la fête. Et voilà, donc ces 3 premières années se sont passées. Ensuite, je me suis inscrit à des concours pour l'armée, donc pour faire l'école des sous-officiers de Saint-Mexant. Et sinon, j'ai passé le concours d'infirmier à Saint-Étienne. Et puis, j'étais admis dans les 2 endroits, j'ai dû choisir. Et par défaut, j'ai choisi l'infirmerie. À cette époque, je commençais à rencontrer dans ma vie privée des gens qui ont été très significatifs dans les tournants que j'ai pu prendre à cette époque-là. Parce que à la base, j'ai fait un lycée militaire en seconde et première, et qui m'avait un peu projeté vers un état d'esprit un peu de droite, voire un peu plus. Et là, après, en revenant dans le civil, petit à petit, j'ai rencontré des personnes qui m'ont permis de réagir. Et je crois que le choix était, j'ai dit tout à l'heure par défaut, mais finalement, c'était plutôt le choix de ne pas aller dans une certaine direction. Donc en fait, cette direction militaire, je ne la voulais pas. La rigueur, l'obéissance, et j'ai pas regretté. Alors déjà, les études ont été tout à fait sympathiques et j'ai pu passer mes 3 ans tranquillement, encore une fois sans travailler ou très peu sur un plan personnel. Voilà, j'ai fini infirmier en 93. Une autre influence dans mon choix, c'est que ma sœur est infirmière et ben voilà, j'ai suivi un peu son parcours. En tout cas, ce qui était derrière, c'est effectivement le lien social qui m'intéressait.
Le lien social, ça on l'entend bien et on va en parler avec votre travail ici à Malévo. La question me vient spontanément aussi l'intérêt du corps humain, de savoir comment fonctionne ce corps humain, parce que quand on suit une filière médicale pour être médecin ou pour être infirmier, il y a quand même une connaissance, une envie de connaître ce corps humain.
Oui. Alors ça a démarré comme j'étais dans les soins somatiques, ça a démarré par les soins intensifs, où là effectivement j'étais plutôt dans la physiopathologie du corps humain, avec des soins très poussés. Souvent des patients intubés, j'ai fait aussi beaucoup de post-chirurgie cardiaque avec une grosse technicité. On avait un pôle qui était juste incroyable à Saint-Étienne. Donc c'était énormément dans la technicité. Et au départ, je voyais beaucoup ça. Et puis, alors évidemment, quand un patient est intubé et sédaté, en termes d'interaction, la seule chose que nous devons faire en tant qu'infirmier, infirmière, c'est de parler au patient, même s'il est sédaté, de lui expliquer tout ce qu'on fait, etc. Et ça, c'est quelque chose qui m'est venu même pendant les études, parce que j'ai eu la chance de faire un stage en soins intensifs de neurochirurgie et un en réanimation. Donc là, j'ai pu apprendre avec des personnes de pointure comment interagir avec un patient sédaté. Et ensuite, évidemment, lorsqu'on réveille les patients, il y a toute cette interaction verbale et non verbale, et ce moment du réveil aussi, qui est un moment étonnant, où en fait, il faut s'imaginer, comme quand on se réveille dans un sommeil profond, on émerge, on ne sait plus où on est, on ne sait plus où on dort, etc. Donc je pense, j'imagine le réveil comme ça. Et là, le soutien, il est très important, parce qu'on réveille d'abord les gens avant de leur enlever l'aide respiratoire. Donc il y a tout un moment où ils ont encore un tube dans la trachée et où ils sont réveillés. Donc là, c'est un moment crucial. Et puis ensuite, alors dans les soins somatiques, vu que dans les soins intensifs ou réanimation, c'est des pathologies graves, il y a tout cet aspect justement psychologique, je vais dire, de soutien de la personne et d'arriver à tirer la personne vers le haut. Parce que c'est très subtil à ce moment-là, et puis c'est vraiment sur la corde raide. Un petit plus peut faire basculer le rétablissement dans le bon sens, et peut-être l'absence de ce petit plus peut faire stagner, voire basculer dans un autre sens. Donc voilà, c'était l'aspect psychologique d'interaction qui m'a stimulé très tôt.
Et là, on puise où pour cet aspect psychologique? On puise dans quoi? On puise dans ce que nous sommes comme êtres humains ou dans ce qu'on connaît effectivement du médical? Comment ça se passe?
Alors, je dirais les deux, parce qu'il y a toute l'expérience personnelle. Depuis que je suis tout petit, je regarde les adultes comme ça, vers le haut, et puis je les ai observés toute mon enfance interagir et réagir dans leurs actions, etc., ou dans leurs inactions. Et ça m'a toujours interpellé. Donc, en fait, depuis toujours, je suis interpellé par le fonctionnement humain, l'interaction psychosociale humaine. Donc ça a été une première chose. La seconde, c'est que pendant les études d'infirmier, il y avait des cours qu'on appelait les TP, les travaux pratiques, où on faisait parfois des jeux de rôle ou parfois des cours un tout petit peu plus théoriques sur... mais qui était très interactif, sur comment se comporter, quel est ce rôle infirmier propre, qui est très subtil. Alors on parle souvent d'empathie, je pense que ça va bien au-delà de l'empathie, parce que la définition de l'empathie est trop pauvre pour définir le rôle infirmier propre. Ça va nettement au-delà. En fait, je pars du principe que les médecins prescrivent ce qui va aider à la guérison et puis que nous appliquons les traitements psychologiques qui vont vraiment, associés au traitement, permettre la guérison, permettre la convalescence, le rétablissement complet. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très lié, le travail du médecin et le travail de l'infirmier ou de l'infirmière. Je trouve que le travail de l'infirmière n'est pas assez valorisé dans nos sociétés. Alors un petit peu plus, ça commence à venir. Le Covid a fait changer quelques comportements. Mais voilà, on reste pour certaines personnes, et très souvent pour des patients-patientes, les sous-fifres des docteurs. Et on a beau aider au max une personne, il y aura une forme de clivage où elle nous remettra à notre place, souvent en présence du médecin. Alors que en psychiatrie, le travail psychothérapeutique, il est totalement partagé. Et puis c'est l'infirmière qui est le plus souvent avec le patient ou la patiente. Le médecin voit la patiente ou le patient maximum une demi-heure, une heure par semaine. Bon, avec quelques exceptions, bien sûr. Et nous, on les voit tout au long de la journée lorsqu'on travaille. Donc c'est une grande importance de ce travail d'interaction entre le soignant et le ou la soignée en psychiatrie.
Revenons à votre parcours. Vous arrivez à Malévo un soir. Comment ça se passe ?
Alors, c'est particulier parce que c'est vraiment, pour moi, l'inconnu. Pour deux raisons. Déjà, le travail de nuit dans ce type de service et le travail en psychiatrie. Donc, j'avais fait beaucoup, beaucoup de nuits dans les soins somatiques, mais voilà, mais pas ni de jour ni de nuit en psychiatrie. Et puis, j'ai été accueilli ce soir-là, je me souviens, par Rémi Brandt, qui est un ancien infirmier de Malévo, qui a pris la retraite il y a quelques années. Donc, l'accueil était juste super. Et puis, il y a eu tout de suite cette plongée dans l'interaction soignant-soigné auprès de la personne avec des difficultés psychiques. Et ça, c'était étonnant. Donc ça m'a interpellé, et je crois que ce qui m'a le plus interpellé le premier soir, c'est tout ce que donne la personne soignée en psychiatrie. C'est-à-dire que, alors, par quelques exceptions pour certaines pathologies où là, effectivement, le discours est parfois pauvre, où il y en a très peu, où il faut aller le chercher. Et puis après plusieurs jours, voire semaines d'apprivoisement de la personne, hein, parce que ça, c'est très important, puis comprendre leur façon d'interagir. Mais pour la plupart, il y a une spontanéité dans l'échange, beaucoup plus que dans nos sociétés, que je trouve tout à fait coincées en termes d'interaction et de discussion interpersonnelle.
Comme infirmier en soins intensifs, on a une blessure, on a quelque chose de concret à soigner. Et quand on arrive dans un hôpital psychiatrique, on a une blessure, mais elle est intérieure. Hein. Est-ce que peut-être il y a une différenciation là-autour ?
On rencontre dans les soins somatiques tout un tas de personnes. Donc en termes du continuum des personnalités, on peut avoir de tout. On peut aussi soigner des personnes atteintes psychiatriquement. Voilà. L'inconvénient des soins somatiques, c'est que ce qu'on nous demande en priorité, c'est le soin physique. Et en fait, on n'insiste pas assez sur d'autres traitements qui sont du rôle propre de l'infirmière. Tout ce qui va être le nursing, ça c'est un moment d'interaction important. Hein. On rentre totalement dans l'intimité de quelqu'un. Hein. En soins intensifs, les personnes en général ont tout juste une chemise sur eux quand ils en ont une. Donc on est vraiment dans l'intimité de la personne. Et je pense que ça doit favoriser une interaction verbale, non-verbale, de compassion et de pure entraide. C'est pour ça que je dis que ça va au-delà de l'empathie. C'est pas de l'empathie, c'est pas possible. On peut pas dire je suis en empathie auprès de quelqu'un, qu'on lave, qu'on nettoie lors des éliminations, etc., etc. On est invasif, quelqu'un qui est intubé et qui est conscient. Régulièrement, on descend un tube, une sonde dans la trachée pour aspirer les sécrétions. Donc on est invasif et invasif dans tous les sens du terme. Donc s'il n'y a pas cet aspect psychologique d'attention à ça dans la relation, on est maltraitant. Donc le soin somatique m'a fabriqué pour la psychiatrie, en fait. Pendant mes études, j'ai adoré tous ces moments où on parlait de l'interaction humaine, et je me suis nourri de ça. Et ça a alimenté ma capacité d'interaction et de soins psychologiques, mais je ne l'ai pas vu tout de suite, que c'était ça que j'aimais réellement. Et là, je pense que c'est un peu mimétisme, parce que ma sœur, pendant ses études, travaillait dans des réa, et j'étais pris aussi dans ce soin technique, qui est aussi très intéressant, hein. On manipule tout un tas de machines, je pense notamment à une contre-pulsion que je connaissais par cœur le fonctionnement. C'est un ballon qui se gonfle dans l'aorte abdominale pour favoriser le remplissage du ventricule gauche. Donc c'est pour des cœurs en post-chirurgie cardiaque qui sont très affectés et qui arrivent mal à se contracter. Donc quand on maîtrise ça de l'extérieur, il y a un côté très valorisant comme ça. Et voilà, donc le soin technique, il fait plonger dans cet état d'esprit. Et ce qui fait que certains vont rester dans cette philosophie et travailler toute leur vie dans ces soins techniques. Et par exemple, en Suisse, il y a cette magnifique formation de 2 ans sur les soins intensifs et qui fait approfondir la technicité, la physiopathologie de l'être humain. C'est incroyable. Alors, ce sont des personnes qui, après, ont une maîtrise étonnante. Beaucoup plus, par exemple, que le premier médecin assistant venu qui va arriver en soins intensifs. Parfois même plus que certains chefs de clinique. Donc, voilà.
Et par rapport à votre première nuit que vous aviez faite il y a quelques années et votre arrivée à Malévaux, est-ce que vous avez déjà constaté des changements ?
Dans l'hôpital de Malévaux ? Alors, forcément... en 2002, donc j'ai fait cette. Enfin, c'était un début de nuit que j'ai fait, et ensuite j'ai pris un poste de nuit à 80%, puis 90%, puis ensuite je crois 100%. Ensuite je suis repassé de jour. Mais à l'époque, il y avait quand même, j'irais un petit peu moins d'intensité. Il y avait moins cette espèce de submersion qu'on ressent aujourd'hui. On avait ça parfois, mais c'était moins fréquent. Donc là, déjà en termes d'intensité de travail, en termes aussi d'état de la société, puisque les hôpitaux psychiatriques sont pour moi un reflet, vraiment le miroir de la société. C'est un microcosme, mais c'est un reflet vraiment de la société. C'est-à-dire que je pense que quand dans le milieu psychiatrique ça va mal, je pense que la société va mal. Alors, j'ai retrouvé beaucoup de similitudes en janvier 2022. Mais c'était aussi différent. C'est à la fois identique et différent. Donc ce qui était identique, c'est l'état d'esprit de l'institution. C'est la priorité à la personne soignée, donc la priorité aux patientes et patients. Cette attention profonde aussi. Hein. C'est là où il y a une grosse différence entre les hôpitaux fermés et l'hôpital de Malévaux, qui est un hôpital ouvert. Il y en a très peu en Europe, hein, des hôpitaux ouverts en psychiatrie. Et après, donc, les expériences d'hôpitaux fermés, c'est vrai que revenir en hôpital ouvert, c'était vraiment quelque chose d'important. Les prises en charge avaient un peu changé parce qu'il fallait aller plus vite. Il y avait plus de protocoles aussi. Ce qu'on peut dire, c'est que quand j'ai travaillé en 2002 et 2006, c'était une psychiatrie assez... et l'hôpital de Malévaux, c'est un hôpital assez familial. Et comme ça, un peu de grand-papa quand même, parce que... Et grand-maman, parce que... Bah déjà, le directeur à l'époque, c'était le docteur Caron. On le voyait très régulièrement dans toutes les unités. Il faisait aussi régulièrement des entretiens avec des patients difficiles. Il était énormément soutenant envers les équipes infirmières. Alors, je ne dis pas que les directeurs actuels ne le sont pas, hein, mais ce n'était pas du tout la même approche. Il y avait vraiment ce côté paternel, comme ça, qui était bienveillant. Ce n'était pas du paternalisme, c'était paternel. Très bienveillant, très soutenant. Voilà, il y avait un peu plus d'interaction transhiérarchique. C'était un peu plus horizontal. Il y avait des groupes de sport ou... où tout le monde jouait contre tout le monde. Il y a un moment dont je me souviendrai toute ma vie, où on jouait au badminton et je joue contre Marie-Christine Rowe, qui était ICS à l'époque, qui était un peu connue pour un côté très, très rêche comme ça, mais très correct. Et à un moment, je lui envoie le volant dans la figure, et là, j'étais tout embarrassé. Elle me fait « Mais Eric, c'est le jeu, hein, c'est comme ça !» Donc voilà. Donc il y avait vraiment ce côté un peu plus horizontal. Après, je pense que c'est aussi bah, évidemment la société qui a fait changer ça, et puis l'évolution des soins en psychiatrie. Vraisemblablement, on ne pouvait pas continuer comme c'était avant. Donc voilà, il y avait un besoin de changement, et puis ça s'est fait. Et puis moi, il y a toutes ces 20 ans, puisque je suis quitté en 2006, donc 16 ans d'absence où bah, ça a évolué progressivement vers ce que j'ai redécouvert en janvier 2022. En début des années 2000, chaque personne qui rentrait à l'hôpital de Malévo passait par la chemise d'hôpital pendant 3 jours. Aujourd'hui, c'est un outil qui est décrié, enfin, surtout par la commission de la torture. Ça devient compliqué maintenant de prescrire la chemise d'hôpital pour une personne hospitalisée. Et pourtant, ça serait plus souvent nécessaire que ce qu'on l'utilise.
Pourquoi?
Alors, il y a une première raison, c'est que même si c'est de la psychiatrie, c'est un hôpital. Donc, marquer le fait d'être en soins à travers la chemise, ça peut faciliter pour certaines personnes. Et puis, on le voit dans certains cadres et prises en charge, on passe encore par la chemise et ça a un excellent effet. Ça permet à la fois pour la personne, mais peut-être pas trop parce qu'elle ne voit pas forcément tout ce qui se passe à ce moment-là, de par son état mental, mais pour les soignants, d'avoir un peu plus d'attention pour la personne soignée, de se rappeler qu'elle est fragile à ce moment-là, de se rappeler qu'on doit être plus vigilant, qu'on doit être plus présent et qu'on doit faire les choses correctement. Pour comparer, dans un hôpital fermé, ben, la personne va être en chemise dans la chambre fermée. On enfermait les gens par décision, hein. Il y avait quand même un colloque interdisciplinaire, une décision médicale. Ça nécessitait parfois. Mais ensuite, on allait voir les personnes une fois toutes les heures. Et puis c'était juste un regard par le hublot. Et puis il y avait des horaires où on rentrait à plusieurs pour faire les soins ou administrer les traitements. Ici, il n'y a pas ça. Les personnes qui font fonction de mur, c'est les infirmiers et les infirmières. Et nous sommes la contention géographique et physique, parfois des personnes qui sont en difficulté. Donc c'est vraiment très différent. C'est déjà beaucoup plus humain. Alors certains vont décrier ça et puis dire que parfois ça va mettre plus longtemps. Je crois pas. Je crois pas que ça mette plus longtemps parce que j'ai vu dans les hôpitaux fermés des personnes bipolaires qui restaient très longtemps en chambre fermée. Hein. Donc parfois plus de 2 mois. Hein. Et on le voit ici aussi. Parfois, les personnes bipolaires, on doit les accompagner pendant très longtemps avant qu'elles puissent redescendre. Mais vraiment, ce côté, c'est humain, en fait. Au lieu que ce soit une porte et des murs et un hublot, c'est des êtres humains qui sont là, qui sont en face de la personne, qui l'accompagnent au quotidien, parfois la soutiennent. Parce que, ben, évidemment, quand les personnes sont un peu sédatées, elles ont parfois aussi des difficultés à marcher, puis la sédation, elle est nécessaire, hein. Imaginez quelqu'un qui ne dort pas pendant des jours et des jours et des jours. Il y a un moment donné, la chimie doit intervenir. Parce qu'il y a un véritable danger pour la personne qui est dans cet état. À la fois la mise en danger par l'hyperactivité et à la fois par le manque de sommeil. On sait qu'au bout de 11 jours, une personne qui ne dort pas du tout, elle meurt. Voilà. Donc l'hôpital de Malévo a gardé quand même son essence.
Concrètement, comment se passe une journée de votre travail ici à Malévo?
Le matin, lorsqu'on arrive à 7 h, on prend les transmissions de l'équipe de nuit, et puis ensuite on se transmet les informations entre nous, on organise la journée, on se distribue le travail. Il y a une personne qui distribue les médicaments, souvent elle est associée à une autre qui va soit faire les prises de sang, les prises de tension. Alors en semaine, il y en a un petit peu moins, on les réserve plus sur le week-end parce que c'est un peu plus calme. Il y a un tour qui est fait pour réveiller les patients et patientes, pour voir si tout le monde est là, si prendre un peu la température du service, voir un peu l'état de chacun et chacune. Il y a aussi une personne qui va au petit déjeuner à partir de 8 heures, et puis qui reste auprès des patients dans les zones communes. Et puis ça se déroule comme ça la matinée. À 9 h moins le quart, il y a la personne qui a été référente le matin. Pour les transmissions, va aux transmissions avec les docteurs. Là, c'est les urgences. C'est juste ce qui est le plus important. Et puis, après cela, à partir de 10 heures, il y a des entretiens médico-infirmiers. C'est-à-dire que chaque infirmière-infirmier a un certain nombre de patients-patientes en référence sur le poste. Pareil pour l'après-midi. Alors parfois, ça peut faire jusqu'à 3 entretiens médico-infirmiers. Donc ça, c'est un peu lourd. Sur deux points. Hein. Déjà, ben, l'aspect chronophage, ça va être entre une demi-heure et trois quarts d'heure par entretien. Donc, ça fait beaucoup de temps qui est pris. Ensuite, il y a la retranscription. Donc, c'est beaucoup de temps consacré à deux, trois personnes en particulier. Et puis, parfois, ben, les trois, quatre autres que nous avons, ben, on les voit moins. Donc, c'est ce moment-là où on va essayer d'aller un peu plus vers les personnes qu'on risque de ne pas voir après. Ensuite, à midi, nous distribuons les repas. Il y a deux personnes qui mangent avec les patients-patientes. Il y a une personne qui, souvent, c'est l'horaire M, donc celui qui fait 10h-19h, qui monte à la cafétéria manger avec une personne. C'est ce qu'on appelle le repas thérapeutique. Je reviendrai sur l'horaire M. Et puis, ben, début d'après-midi, il y a les médicaments à 13h. 14h30, il y a les transmissions. À 15h24, l'équipe du matin s'en va. Voilà, sinon, les autres jours, à partir de 14h30 pour l'équipe du soir, on lance le travail auprès des personnes. Donc, il y a une répartition des tâches et des références. Il y a une personne ensuite qui fait le tour. Une qui note sur, on a une feuille en plastifié où on note les références en fonction des chambres. Comme ça, les noms des personnes n'apparaissent pas. Comme ça, chaque patient-patiente sait quel va être son référent ou sa référente pour le poste. Pareil le matin, je ne l'ai pas dit, mais on note aussi le matin après la répartition, juste après les transmissions à 7h30. Et puis ensuite, bah, on se lance dans les activités thérapeutiques. Il peut y avoir des entretiens médicaux infirmiers, on a un peu moins l'après-midi, donc c'est un moment un peu plus privilégié à passer auprès des patients-patientes. On gère tout le fonctionnement de l'unité, hein. Des personnes qui demandent plus de présence, plus de soins. Il y a aussi des soins somatiques qui entrent en jeu. Je crois que la prévalence des pathologies somatiques, c'est de 40% chez les patients en psychiatrie, donc c'est énorme. Et nos docteurs sont très très attentifs à ça. Très attentif. L'attention à l'aspect somatique est plus importante en psychiatrie que l'attention aux soins psychiatriques en somatique. Probablement par méconnaissance ou par peur, hein, parce que c'est le reflet de la société. La société a peur de la maladie psychique, et je pense que c'est lié au fait que chaque individu a peur de cette maladie. Le problème, c'est que ça crée des biais, parce que du coup, à la fois, on veut cacher ça, à la fois, c'est tabou, à la fois, les personnes qui ont vécu des difficultés sont pas toujours réacceptées normalement dans la société. Et voilà, donc ça crée quand même beaucoup de biais et de travers. Je digresse, mais voilà, donc là, les journées, j'en étais à l'après-midi, donc des entretiens, des soins. À 17h, il y a nouveau des traitements. Ensuite, il y a le repas à 17h45. Dans notre unité, il est avancé d'un quart d'heure. Là aussi, on accompagne les personnes. Après le repas, il y a un moment là où on essaie de faire des notes, des annotations. À 19h, il y a nouveau des traitements. En soirée, il y a parfois des entretiens ou des activités type NADA. NADA, c'est un processus d'acupuncture au niveau des oreilles qui a tendance à tranquilliser et détoxifier certains organes. Et la soirée, alors voilà, à partir de 20h30, 21h, c'est souvent un moment où on fait pas mal d'annotations, on essaie d'être vigilant aussi parce que la soirée est parfois un moment difficile pour les personnes psychiquement touchées. L'arrivée de la nuit, le fait de que se profile le fait d'aller dormir. Donc il y a d'autres enjeux qui sont là, auxquels on doit être attentif. Voilà. Après, il y a l'équipe de nuit qui arrive à 21h45, il y a une transmission, et puis ensuite on s'en va à 22h. Et je veux revenir sur l'horaire M, qui est de 10h à 19h, qui est un horaire où là, on est censé être, je dis censé parce que c'est pas systématiquement le cas, mais on est censé être plus auprès des patients. Donc dans les zones communes, on est censé organiser des activités. Alors c'est souvent en lien avec le quartier socioculturel, puisque chaque après-midi, de 15h à 16h30, il y a une activité. Donc moi j'aime bien faire le tour de l'unité, déjà avertir les patients le matin pour recruter des personnes pour ensuite monter au quartier, faire les activités. C'est très bénéfique, ça les sort aussi de l'ambiance psychiatrique. C'est d'autres personnes qui sont extérieures aux soins psychiatriques qui sont plutôt orientées vers la culture, hein, dans tous les sens, en termes de production culturelle et aussi la culture du jardin, puisque le quartier est aussi là où se retrouvent les membres du jardin de l'hôpital. Donc il y a ce mélange d'état d'esprit et qui est très différent du soin psychiatrique, et beaucoup de patients-patientes y trouvent leur compte. C'est-à-dire vraiment, ça les sort de ce milieu difficile. J'ai eu des situations étonnantes. Parfois, j'essaie d'emmener des personnes qui ne sont pas forcément stabilisées, et puis on tombe sur des situations incroyables. J'ai le souvenir d'une dame là qui est un peu chronique, qui revient régulièrement chez nous, et puis parfois, quand elle est décompensée, est assez mutique, renfermée, qui est peu dans l'interaction. Et puis là, je l'avais motivée à venir, et c'était Natacha qui faisait ses activités plaintes. Et là, sur la fin de l'activité, elle prend la parole et elle se livre totalement. Elle nous parle de sa tristesse de mère qui voit très peu ses enfants et ses petits-enfants, la tristesse de grand-mère, cette perte qu'elle a eue tout au long de sa vie, hein, finalement à cause de la maladie psychiatrique. Et là, tout le monde se tait, l'écoute. Au bout d'un moment, je vois que le temps passe, que c'est difficile à ce moment-là, parce que je dois essayer de chercher une solution pour elle et pour l'ensemble du groupe qui est là. Et là, c'est pas Natacha de trouver une solution, c'est à moi, puisque là, on est dans l'interaction pure. En même temps, c'est aussi un lieu qui était là pour ça. Voilà, c'était finalement le lieu pour ça aussi. Mais à ce moment-là, je me sens un peu mal à l'aise et puis j'essaie de freiner la patiente. Et puis en fait, j'ai renoncé au bout d'un moment et puis elle a continué à parler. Puis à un moment où les choses se sont apaisées, ça s'est terminé, on a pu mettre fin à l'atelier. Et c'était un moment étonnant. Alors j'ai eu un moment de stress et puis après, j'ai essayé de me relaxer dans cet état d'esprit, de respirer. Et puis peut-être que justement, ça a permis de faire descendre la pression. Et voilà, c'était un grand moment. Il y a d'autres moments comme ça. On en rencontre aussi parfois à la radio, même dans les activités peinture. C'est juste étonnant. Malévo, c'est vraiment, comme on dit, mon premier amour de la psychiatrie. Et là où j'ai rencontré, ben, je ne l'ai pas su tout de suite, hein, mais je l'ai su après, quand je suis allé en hôpital fermé, une psychiatrie humaniste. C'est presque antinomique, hein, dans les hôpitaux fermés, c'est antinomique. Certes, j'ai travaillé à Seri à une époque où c'était très dysfonctionnel. Aujourd'hui, je ne sais pas, parce que je n'y suis pas retourné depuis des années. Il y avait là de la maltraitance. De la maltraitance des soignants envers les patients. Et puis inversement, ça entraînait forcément la maltraitance dans l'autre sens. Évidemment que je ne vais pas dire qu'à Malévo, il n'y a jamais de maltraitance. Parce qu'on est tous des humains, les personnes soignées et les soignants-soignantes. Mais il y a plus facilement de réajustement. C'est-à-dire que comme on est dans un process où on est en permanence au contact de la personne soignée, le réajustement se fait grâce à ce contact. C'est-à-dire, les personnes soignées, elles nous forcent à nous réinterroger sur notre prise en charge, sur ce qu'on a pu décider de faire, de mettre en place ou pas, jusqu'où on est allé dans l'interaction psychothérapeutique. Alors évidemment, on ne fait pas des psychothérapies à proprement parler ici, hein. On ne va pas travailler sur les troubles du passé, etc. Parler que de ça, non, ça se fait en psychothérapie à l'extérieur. Mais on est amené parfois à aller chercher certains éléments du passé pour pouvoir travailler sur le présent. Donc en fait, toute cette interaction ici à Malévo, vu qu'elle est prolixe, on a plein de situations qui nous remettent en question. Alors l'erreur parfois qu'on fait au début, il y a deux erreurs qu'on peut faire au début, c'est ne pas arriver à baster sur une situation, c'est-à-dire faire marche arrière, réajuster immédiatement, et puis ça va très très vite. Hein. Un patient nous confronte à quelque chose qui touche parfois qui nous sommes en tant que personne et non plus, on le prend comme ça. Alors qu'en fait, ça touche qui on est en tant que soignant. Donc dès qu'on le prend en tant que personne, on se sent porte-à-faux, on se sent remis en question, et l'orgueil peut nous faire mal réagir. Et du coup, ce qu'on appelle monter en symétrie, et là, arriver à un conflit réel. Alors qu'on doit plutôt être dans la désescalade. Quand notre job, quand la personne monte, c'est de la faire désescalader. Et puis savoir très très vite s'interroger. Parce que ce que nous disent souvent les personnes soignées en psychiatrie ou qui ont des difficultés psychiques, c'est souvent la vérité. Donc on est en face de personnes qui n'ont pas du tout la même perception qu'une population un peu plus standard, mais qui ont une perception souvent beaucoup plus fine, qui sont habitués à parler d'eux, à parler de psychisme, donc qui se connaissent très très bien, qui connaissent très bien, même s'ils sont en difficulté, très bien le fonctionnement humain. Donc on est en contact avec des personnes qui sentent énormément les choses. Moi, j'ai pu constater que y a des jours où on arrive, on est moins avenant, on a moins la pêche, ou voilà, où on a une difficulté en tête, et puis tout à coup, en face d'une patiente ou d'un patient, cette personne nous renvoie cette difficulté, mais comme si elle lisait dans nos pensées. C'est impressionnant. Alors moi, j'attribue ça aux phéromones. C'est-à-dire quand on est dans un état d'esprit, on oublie qu'on est des animaux, puis qu'on dégage des phéromones et qu'on les sent. On sent aussi les phéromones des autres. Et qu'inconsciemment, on est alerté par ces phéromones. Toutes sortes, hein, phéromones de peur, de violence, de domination, de soumission, de joie, de bienveillance, de tristesse, etc. Donc l'expression indirecte de nos émotions, elle est perçue par ces personnes-là. Beaucoup plus que dans la société, parce que c'est aussi des personnes qui sont beaucoup plus attentives. Je pense que la société gagnerait à être plus attentive, gagnerait à recevoir des enseignements de la part des personnes soignées en psychiatrie. Parce qu'il y a beaucoup plus de finesse dans la perception du quotidien et de qui on est en tant qu'humain. Et ça, c'est précieux. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément, qui me nourrit énormément. Et en plus, quand on essaie, je ne dis pas que je fais toujours juste, hein, mais quand on essaie de faire le maximum pour aller dans le bon sens, aider les personnes, essayer de se remettre en question, essayer de réajuster régulièrement, on a toujours un retour sur investissement. On a toujours un retour. Et quand les personnes s'en vont et qu'on a parfois des accolades, hein, que je ne refuse pas, hein, je le délimite éventuellement si ça va trop loin, mais... Et quand on a ce retour des personnes qui s'en vont, qui vont mieux, qui sont le jour et la nuit par rapport à l'admission, c'est incroyable. Et sur un plan humain, jusqu'à présent, je n'ai pas reçu sur un plan humain des choses équivalentes. C'est vraiment exceptionnel. Et même, je vais plus loin, même par exemple des personnes bipolaires avec qui je peux être en conflit pendant la prise en charge aiguë, parce qu'on délimite l'espace, le cadre, etc. Donc on crée la frustration, on assume la frustration, on reçoit la colère, on reçoit des insultes, des menaces. Mais c'est la maladie qui crée ça. Hein. Et ces personnes, quand elles vont mieux, quand elles redescendent de leur phase maniaque, et quand ces personnes-là vous disent « Ah, mais Eric, merci d'avoir fait ça. » Et ça, c'est étonnant. C'est une émotion incroyable. Je me souviens d'un jour à Lausanne, où je monte dans le bus, et puis il y a une patiente que je n'avais pas vue, que j'avais soignée, une patiente, une énorme bipolaire, et qui est venue me voir, qui allait bien, qui était stabilisée, qui avait un étayage qui permettait de bien la suivre à l'extérieur, et qui est venue me voir et me remercier. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Pareil, hein, à monter, on peut croiser aussi des personnes, etc. Donc ça, c'est vraiment des choses très, très, très précieuses. Alors, on a ça aussi dans les soins somatiques. C'est tout aussi valorisant. Mais je dirais que en psychiatrie, il y a des surprises supplémentaires. Des personnes, peut-être chroniques, peut-être qu'elles reviendront, même des psychotiques, qui ont des comportements étonnants et des remerciements étonnants lorsqu'ils s'en vont. Donc, s'il y a un truc à retenir, c'est ça. Et particulièrement à l'Evo, de par sa structure.